Premier jour, Immaculée Conception de la Sainte Vierge. Je le sais, mon cher Théotime, vous avez un saint zèle pour ce glorieux privilège de Marie. Le Seigneur en soit béni, car ce pieux sentiment n'est pas moins solidement appuyé qu'il n'est honorable à la Reine des Saints et cher à tous ses serviteurs. Si nous consultons les Divines Écritures, nous reconnaîtrons à chaque page cette Vierge Immaculée. Elle est une glorieuse cité de Dieu, dont la première pierre est posée au sommet des saintes montagnes. Fundamenta ejus in montibus sanctis. Psaume 88, verset 1. L'édifice de la sainteté de Marie commence là où se sont arrêtés toutes les hiérarchies des anges et des saints. Elle est le lys sans tache au milieu des épines de nos péchés. Sicut lilium inter spinas. Cantique 2, verset 2. Semblable à la toison miraculeuse de Gédéon, tantôt elle demeure seule, intacte au milieu du déluge universel de l'iniquité, tantôt elle est seule, arrosée des eaux de la grâce, tandis que le reste de la terre est frappé de stérilité et de mort. Que ne puis-je parcourir avec vous, mon cher Théotime, toutes les figures dont l'Esprit Saint s'est servi pour annoncer l'épouse toute pure et toute belle qu'il s'est choisie de toute éternité. Il était de votre dignité, Seigneur, de préserver de la moindre souillure celle que vous destiniez à devenir la mère d'un Dieu. Et voilà pourquoi le grand Augustin ne veut pas, toutes les fois qu'il s'agit de péché, qu'on fasse mention de la bienheureuse Vierge pour l'honneur de son divin Fils. Prompteur Honorem Domini. Saint Augustin, Livre de la Nature et de la Grâce. En effet, peut-on supposer, sans être indigné, que le démon ait pu se vanter d'avoir régné le premier, ne fût-ce qu'un instant dans une âme préparée pour une fin aussi sublime que la divine maternité, que la mère de Dieu ait commencé par être esclave de Satan et que les premiers moments d'une si noble créature aient été infectés de la contagion du péché. Fin de l'homme. Méditation. Et nous, mon cher enfant, connaissons aussi notre dignité. Sans doute, elle n'est pas comparable à celle de Marie. Mais toutefois, que ma destinée est noble, qu'elle est grande, qu'elle est belle. 1. Je suis créée de Dieu. Ce n'est pas un ange, un archange, un chérubin qui m'a fait ce que je suis. C'est Dieu lui-même, ce grand Dieu, qui n'avait nul besoin de moi et qui trouve en lui seul son bonheur et sa gloire. Et d'où m'a-t-il tiré ? Du fond même du néant, où sa miséricorde est venue me prendre, étendant, pour arriver jusqu'à ma bassesse, la puissance de son bras et traversant cette distance infinie qui sépare le néant de l'être. Il m'a créé préférablement à tant d'autres qui l'eussent moins offensé, mieux servi. Moi, ingrat, infâme pécheur, qui ne me suis servi de ses bienfaits que pour l'outrager. Il m'a donné une intelligence capable de le connaître, un cœur fait pour l'aimer. Il m'a créé à son image, exprimant dans mon âme le sceau de sa divinité. Signatum est super nos lumen vultus tui domine. Psaume 4, verset 7. Rappelez-vous ce jeune prince qui, ayant perdu de bonne heure son vertueux père, fit graver ses traits sur une médaille qu'il portait toujours suspendue à son cou. Quand il avait quelque chose à entreprendre, il prenait cette médaille entre ses mains et, la contemplant, avec deux yeux baignés de larmes, il s'écriait « Ne permettez pas, ô mon père, que je fasse jamais rien qui soit indigne de vous. » Mon cher Théotime, quelle image, quel nom auguste est gravé dans nos âmes ! Cujus est imago, haec et superscriptio. Matthieu, chapitre 22, verset 10. C'est l'image, le nom de Dieu même. Hélas, cette image divine, ne l'ai-je point effacée, traînée dans la boue? Ô mon âme, belle créature de Dieu, qu'es-tu devenue par le péché? 2. Je suis créée pour Dieu, pour le servir en cette vie et pour partager en l'autre sa gloire et son bonheur. Il y a des maîtres dans le monde, on les sert, on s'estime heureux de les servir, on s'épuise quelquefois à leur service. Cependant, ces maîtres d'ici-bas ont eux-mêmes des maîtres, ou s'ils n'en ont pas sur la terre, ils en ont dans le ciel. Ces maîtres d'ici-bas, que sont-ils? Des hommes mortels, comme nous. Ainsi, le premier, le souverain maître, c'est Dieu. Et s'il est vrai, selon la belle expression de l'Église, que servir un si grand maître, c'est être roi, servire Deo regnare es. Que sera-ce de partager avec lui sa félicité et de régner avec lui dans son palais? Ici, mon cher Théotime, élevons nos cœurs sur summa corda. Un trône m'attend dans les cieux, héritier désigné d'une couronne immortelle. Que puis-je voir sur la terre qui soit digne d'arrêter mes regards, d'occuper mon esprit, d'arracher mon cœur? Suis-je appelé à de si glorieuses destinées? Suis-je enfant de Dieu pour me repaître d'une fumée d'honneur, pour être l'esclave de mon corps, vivre comme la brute, et poursuivre un bonheur toujours fugitif dans les plaisirs tantôt frivoles, tantôt honteux, toujours faux et trompeurs? Ô enfant des hommes, jusqu'à quand aurez-vous le cœur appesanti, et vous fatiguerez-vous après le mensonge et la vanité? Souviens-toi, ô chrétien, que tu as un Dieu à servir, une âme à sauver, un enfer à éviter, un paradis à gagner. Oh, si tu savais ce que signifient ces mots, un Dieu, une âme, un enfer, un paradis, une éternité. N'attends pas la mort pour le comprendre. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Faites-moi connaître ma fin. Notum fac mihi finem meum. Psaume 56, verset 5. Que je vous connaisse, ô mon Dieu, que je me connaisse moi-même. Noverim te, noverim me. Je veux vous servir, je veux sauver mon âme. Je me repens de vous avoir offensé. Marie, mon espérance, priez Jésus pour moi. Exemple. Je ne puis commencer ce mois de bénédiction par un exemple plus consolant que celui de Sainte Marie d'Égypte. Il nous montre, dès les premiers siècles du christianisme, la confiance de l'Église en la Mère de Dieu et la bonté de Marie pour les pauvres. Sous l'empire de Théodose le Jeune, vivait un saint religieux nommé Zosime. Après avoir servi Dieu 53 ans dans le même monastère, il lui vint en pensée qu'il avait acquis la perfection de son saint état. Une révélation divine le détrompa et lui ordonna d'aller dans un autre monastère situé sur le bord du Jourdain. Il y alla et le trouva habité par des anges plutôt que par des hommes. Une de leurs saintes pratiques était de se séparer au commencement du carême et de s'enfoncer, chacun de leur côté, dans le désert pour se livrer à une sorte d'austérité, et ils ne revenaient au monastère que le dimanche des rameaux pour célébrer ensuite la passion et la résurrection du Sauveur. Zosime, ayant passé le Jourdain, comme les autres, s'avança dans le désert, priant avec ferveur. Le 20e jour de sa marche, s'étant arrêté pour le midi, il aperçut une espèce de fantôme qui se mit à fuir devant lui. Il courut sur ses traces, malgré son grand âge, et croyant que c'était un solitaire, il lui cria de s'arrêter et de lui donner sa bénédiction. « Ah, Zosime, lui répond-on, jetez-moi votre manteau pour me couvrir. Vous êtes prêtre, je suis une pauvre pécheresse, c'est à vous de me bénir. » Le saint homme, surpris de s'entendre appeler par son nom, fit ce que cette personne lui demandait, et après avoir prié quelque temps, il la conjura, au nom de Jésus-Christ, de lui dire qui elle était, depuis quand elle vivait dans ce désert. Et elle lui parla ainsi. « Je devrais mourir de honte en disant ce que je suis. Le seul récit de ma vie vous causera tant d'horreur, que vous vous enfuirez devant moi, comme à la vue d'un serpent. Je vous la raconterai cependant, après avoir demandé le secours de vos prières, afin que Dieu me fasse miséricorde au jour du jugement. » Alors, elle lui dit qu'elle était d'Égypte, qu'à l'âge de 12 ans, elle avait quitté son père et sa mère et s'était retirée malgré eux à Alexandrie, où elle avait vécu 17 ans, plongée dans toutes sortes de crimes. « Hélas !» s'écria-t-elle en couvrant son visage de ses mains. « Puis-je, sans mourir de honte, vous raconter tous mes égarements ? Il me semble que chacune de mes paroles est comme une tache qui souille la pureté de l'air que nous respirons. » Un jour d'été, ayant vu un grand nombre de personnes qui couraient vers la mer, je demandai où elles allaient. On me répondit qu'elles allaient à Jérusalem pour y célébrer l'exaltation de la Sainte Croix. Je m'embarquai avec elles et ma navigation, ainsi que mon séjour dans cette ville, ne furent qu'un tissu de crimes. Lorsque la fête de l'exaltation de la glorieuse croix de notre Sauveur fut arrivée, voyant que tout le monde courait à l'église, j'y courus aussi, mais il ne me fut pas possible d'y entrer, et lorsque je touchai le seuil, je me sentais repoussée par une puissance secrète et divine, comme si une troupe de soldats avait ordre de me fermer l'entrée de l'église. Je me trouvai alors sur la place qui est devant la porte. Cela m'étant arrivé, 3 ou 4 fois, toute fatiguée de mes efforts inutiles, je me suis mise à considérer quelle pouvait être la cause qui m'empêchait de voir cette sainte croix. Une pensée salutaire m'ayant ouvert les yeux de l'âme, je jugeai que je devais m'en prendre aux abominations de ma vie. Cette réflexion me toucha et me fit fondre en larmes. Tandis que je me frappais la poitrine, en poussant de profonds soupirs, j'aperçus au-dessus de moi une image de la Sainte Vierge, Mère de Dieu. Alors, fixant mes regards sur elle, je lui dis « Sainte Vierge, Mère de Dieu, je sais que les crimes dont ma vie est souillée me rendent indigne de jeter les yeux sur votre image. Vous qui êtes une Vierge très pure et sans la moindre tache, et votre pureté doit avoir horreur d'une âme aussi abominable que la mienne. Cependant, j'ai appris que le Dieu que vous avez mérité de porter dans votre chaste sein ne s'est fait homme que pour appeler les pécheurs à la pénitence. Je vous prie de m'assister dans l'abandon où je suis. Permettez-moi d'entrer dans l'église. Commandez, Reine du ciel, que la porte me soit ouverte, bien que j'en sois indigne, afin que je n'aie pas le malheur d'être privée de la vue de ce précieux bois où votre Fils a répandu son sang pour mon salut. Je vous promets, au nom de ce divin Sauveur, qu'il ne m'arrivera plus jamais de tomber dans mes horribles impuretés, mais qu'aussitôt que j'aurai adoré cette croix, je renoncerai à tout pour aller sur le champ où il vous plaira de me conduire. Ô Vierge Sainte, vous qui êtes ma caution et mon guide. » Ma prière finie, je sentis une grande consolation, et m'étant présentée à la porte de l'église, j'y entrai sans peine. Je pénétrai même jusque dans le cœur. Là, j'eus le bonheur d'adorer cette croix précieuse qui donne la vie aux hommes. Touchée de la miséricorde de Dieu et de la bonté avec laquelle il est toujours prêt à pardonner aux pécheurs, je me prosternai contre terre, les yeux baignés de larmes. Après avoir baisé le pavé de ce saint lieu, je sortis et courus devant l'image de celle que j'avais priée d'être caution de ma promesse. Je me mis à genoux devant elle et je lui dis « Très miséricordieuse Mère de Dieu, vous m'avez bien fait voir les effets de votre incomparable bonté en exaucant ma prière, malgré mon indignité. Il est temps, Vierge Sainte, que j'accomplisse avec votre assistance ce que je vous ai promis. Envoyez-moi où il vous plaira. Soyez mon guide dans le chemin du salut et de la pénitence. » Alors, j'entendis une voix qui me criait d'assez loin. Si tu passes le Jourdain, tu trouveras le repos. Je pris ces paroles pour moi et je m'écriai en pleurant et en regardant l'image de la Sainte Vierge. Reine de l'univers, vous par qui le salut est arrivé aux hommes, Ne m'abandonnez pas, je vous en supplie. » À ces mots, je partis en grande hâte et un inconnu que je rencontrais me remit 3 pièces d'argent en me disant « Recevez ceci. » J'en achetai 3 pains. Et ayant demandé au boulanger le chemin qui conduisait au Jourdain, je m'en allai en courant et en pleurant. Arrivé à l'église de Saint-Jean-Baptiste, bâtie auprès du fleuve, j'eus le bonheur de recevoir le corps de mon Sauveur. Ensuite, je passai le Jourdain, et ayant encore demandé à la Sainte Vierge qu'elle voulût toujours bien être mon guide, je m'enfonçai dans cette solitude, évitant la rencontre des hommes, et attendant la venue de mon Dieu, qui sauve les grands et les petits, quand ils se convertissent à lui. Après ce récit, le saint religieux lui demanda depuis quand elle vivait dans le désert, de quoi elle y était nourrie et si elle avait éprouvé quelque tentation dans un si grand changement. Elle lui répondit « Il y a à peu près 40 ans que je vins de la ville sainte ici. Pour ma nourriture, j'avais mes 3 pains qui devinrent bientôt aussi durs que des pierres et durant quelques années, j'en mangeais un peu chaque jour. Au reste, l'homme ne vit pas seulement de pain. Quant à mes tentations, c'est à peine si j'ose y penser. Je combattis durant 17 ans contre 1000 désirs violents et une furieuse inclination pour le mal. Mais au milieu de ces assauts, je me mettais à pleurer, à me frapper la poitrine. Je me rappelais ma promesse solennelle et l'image de la Sainte Mère de Dieu, qui m'avait prise sous sa protection. Je la suppliais d'éloigner de moi ces pensées qui affligeaient mon âme. Alors, je voyais une lumière resplendissante qui m'environnait, de toutes parts, et mon esprit rentrait dans le calme. C'est ainsi que dans tous mes combats, j'élevais sans cesse mon cœur vers cette Vierge sans tache qui avait répondu pour moi, et je la priais de m'assister dans ce désert et dans ma pénitence, à quoi elle n'a jamais manqué, cette bienheureuse Mère de Dieu, qui est mon refuge et toute ma force, ne m'a jamais abandonnée et m'a servi de guide en toutes choses. Arrêtons-nous ici, mon cher Théotime. Quelque désir que j'ai de vous raconter l'admirable dénouement d'une vie si merveilleuse. Adressons-nous avec confiance à Marie. Tout pécheur que nous sommes, elle nous ouvrira la porte de la divine miséricorde dès le commencement de ce mois et nous aidera à persévérer. Vie des Pères du désert. Pratique. Tous les jours de ce mois, faites une visite à quelque image de la très sainte Vierge et recommandez-lui instamment le salut de votre âme.